Vous écoutez RTL.
Tout de suite, on observe les cannibales sur RTL. Bonsoir Sébastien Porte.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes journaliste au magazine Ça m'intéresse Histoire. Vous sont consacrés donc un article, une série d'articles au cannibalisme. Là aussi, c'est en partenariat avec RTL. On va commencer par un exercice qui nous plaît bien avec Sidonie. Un petit peu de sémantique, un cannibale et un anthropophage. Est-ce que c'est la même chose?
Oui, on va faire un peu d'étymologie. L'anthropophage, c'est tout simplement celui qui mange les hommes.
Ouais.
Donc on peut dire qu'un loup ou un chien peut devenir anthropophage. Le cannibale, c'est, l'individu qui appartient à une espèce où certains individus dévorent ou se font dévorer par d'autres individus de la même espèce. Donc il y a des lombriques cannibales, il y a des souris cannibales, des scorpions cannibales.
D'accord, ben voilà, c'est clair.
Des cannibales, il y en a un peu partout dans le monde et à toutes les époques. Pourquoi? C'est ce que l'on va découvrir sur RTL.
De l'océan Pacifique, 83 îles volcaniques forment l'archipel du Vanuatu.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Elles sont situées à l'est de l'Australie, au nord de la Nouvelle-Calédonie.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est le pays des cannibales.
Pour satisfaire votre curiosité,
les Occidentaux pensent qu'on y mange les touristes. Contrairement au Vanuatu, nous avons abandonné cette tradition culinaire. En Occident, on ne dévore plus ni ses proches, ni même ses parents au dîner de famille.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Les cannibales, c'est le thème de notre curiosité et du magazine Ça m'intéresse en partenariat avec RTL. Le journaliste Sébastien Porte nous raconte des humains qui en mangent d'autres. Est-ce que c'est une pratique encore existante aujourd'hui? Là, on entendait dans la mise en onde de Sébastien Dudouis les Vanuatu, donc on se dit est-ce qu'on peut encore trouver des cannibales au Vanuatu?
Alors effectivement, au Vanuatu, je pense qu'on a eu les derniers cas de ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler un cannibalisme rituel, qui repose sur des traditions ancestrales, qui est extrêmement codifiée et que l'on pratique de génération en génération, sans qu'il n'y ait sentiment de culpabilité, je dirais. Donc, jusque dans les années 60, 70, 80 même, disent certains chercheurs, il est possible que... il est même certain... Jusque dans les années 60, en tout cas, il est certain qu'on a mangé son voisin de manière rituelle et de manière régulière.
Ça veut dire que ça a disparu avec quoi? Les tabous?
Ça a disparu avec la mondialisation, ça a disparu avec, je dirais, dans un premier temps, en tout cas, si on veut brosser vraiment un grand tableau, à partir de la fin de l'Antiquité, je dirais, après, au moment où s'installent les monothéismes, les religions chrétiennes, musulmanes, juives, il y a un tabou qui s'installe dans l'Afrique du Nord, l'Europe, l'Asie, et qui fait que dans ces civilisations-là, le cannibalisme disparaît, en tout cas de manière rituelle, disparaît complètement pour n'exister que de façon sporadique, en cas de survie ou chez certains criminels. Par contre, il subsiste jusque dans les années 60, en Amérique du Sud, en Océanie, en Afrique. Les derniers cas, effectivement, on les a repérés au Vanuatu, où en 2003... Alors, ce n'était pas un cas de cannibalisme, mais c'était quelqu'un qui était mort indirectement du cannibalisme, puisqu'en 2003, non pas au Vanuatu, mais en Nouvelle-Guinée, la tribu des forêts souffrait d'une maladie qui était liée au cannibalisme, qu'on appelle la maladie de Kourou, qui est une espèce de maladie, une espèce d'encéphalite spongiforme, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La maladie de la vache folle, qui était provoquée par un prion qu'on trouvait à l'intérieur de la moelle osseuse et du cerveau. Et sur ces îles-là, des femmes, essentiellement des femmes et des enfants, pratiquaient une forme de cannibalisme, de l'endogannibalisme, c'est-à-dire qu'on mangeait ces morts après les avoir déterrés, donc après les avoir laissés pendant plusieurs mois dans la terre. Et cela provoquait une maladie dont on pense qu'en 2003, une personne encore est morte pour avoir mangé sa grand-mère à la fin des années 60.
Alors, on va raconter l'histoire du cannibalisme et revenir sur certains des éléments dont vous nous avez parlé, le cannibalisme et ses tabous qui l'entourent. Vous commencez votre dossier dans le magazine Ça m'intéresse par un article de 1895 signé Georges Clemenceau. Alors, il n'est pas encore Premier ministre, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il raconte dans cet article ?
Non, à ce moment-là, effectivement, Georges Clemenceau est dans une période un peu sabbatique, on pourrait dire. Il a été député de ce qu'on appelait alors la Seine, député de Paris, et du Var jusqu'en 1893. Et il ne sera ministre et président du Conseil que dans les années 1906 à 1920. Et donc, pendant cet intervalle, il devient journaliste. Il consacre plusieurs années à écrire dans un journal qui s'appelait La Justice. L'essentiel de ces articles dans La Justice sont parus dans un essai qui s'appelle Dans la mêlée.
Et alors, qu'est-ce qu'il
s'appelle
décrit
La mêlée sociale, pardon.
Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il décrit sur le cannibalisme?
Et donc, on est en pleine période coloniale. Oui. Il y a des missionnaires qui sillonnent l'Afrique, qui voient des choses, qui en sont profondément choqués. Et ils racontent comment, dans un village de l'Afrique centrale, il y aurait eu un marché où des esclaves étaient conduits vivants. Les consommateurs, entre guillemets, prenaient une craie et puis faisaient une croix sur la partie du corps qu'ils souhaitaient manger. Le jarret, le gîte, et ensuite, lorsqu'on avait coché toutes les parties de ce pauvre homme ou de cette pauvre femme, un petit peu comme les vaches que l'on voit aujourd'hui chez nos bouchers, on abattait cet individu et il était dévoré sur place.
Mais là, Georges Clemenceau répercutait des oui-dire, c'est ça, des
voilà,
rumeurs, ou il dit l'avoir vu.
Complètement dans le registre de l'information qui circule de bouche à oreille.
On veut se faire peur un peu, non, à cette époque.
Je pense effectivement qu'il y a, comme aujourd'hui encore, lorsqu'il y a une histoire de cannibale à la une de nos quotidiens, on se jette dessus. Et qu'il y a énormément d'informations qui circulent aussi sur Internet. À cette époque-là aussi, on avait besoin, je pense, de se faire peur, de se prouver également en tant qu'Européens qu'on était un peuple supérieur. On n'était pas comme tous ces gens qui
étaient des sauvages.
C'est sauvage, c'est des bêtes, quelque part.
Donc, effectivement. En tout cas, c'était les termes qu'on employait à l'époque,
voilà,
et qu'on trouvait dans les journaux,
tout à fait.
C'est sûr.
Vous n'avez pas entendu mes guillemets, peut-être ?
Non.
Oui.
On l'avait compris, évidemment.
Et pour revenir à ce radical socialiste qui était Georges Clemenceau, oui. Lui, il décrit il colporte cette scène, non pas pour la dénoncer et pour prouver les bienfaits de la colonisation, au contraire. Donc il décrit cela et puis il dit « Regardez à quoi en sont réduits ces pauvres gens. Si nous leur interdisons d'être cannibales, si nous leur amenons notre culture, notre religion, ils n'auront plus rien à manger et ils vont souffrir de la famine. Mmh. » Donc la description de Clemenceau se termine par une espèce de parole bienveillante qui, en définitive, aussi approuve des pratiques qui sont quand même extrêmement violentes et qui engendrent des souffrances, il faut le dire.
Sébastien Porte, ce mot cannibale, est-ce qu'on sait d'où il vient ?
Alors, oui, c'est intéressant parce qu'il vient vraiment au moment où on passe donc dans l'époque moderne où Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Il arrive aux Caraïbes. On a une tribu qui s'appelle les Caraïbes qui ont l'habitude de manger d'autres gens qu'on appelle les Arawaks. Et les Arawaks surnommaient les Caraïbes les cannibas. Christophe Colomb a entendu le mot cannibale et il l'a colporté en Europe, c'est devenu cannibale.
On ne sait pas forcément ce que ça veut
le
dire.
Le mot cannibale vient en Europe en même temps que ce mythe terrifiant arrive. Et là, les récits de Christophe Colomb, les récits des autres grands explorateurs de l'époque sont accompagnés de toute une littérature et de gravures aussi.
Mais est-ce que ça a servi finalement tous ces récits dont on parle à justifier aussi le colonialisme ou même l'esclavage ?
C'est en effet ce que les ethnologues ont constaté. J'ai fait parler à un ethnologue qui travaille au CNRS, qui s'appelle Georges Guy Escuré, et c'est sa grande thèse. Il explique effectivement que le cannibalisme, certes, a existé, mais c'est aussi un mythe qui a été entretenu, parfois exagéré, pour pouvoir justifier la mission colonisatrice de l'Europe. Au-delà de ça, on peut même dire que dans certains cas, cette vision que l'Européen avait sur les cannibales a entretenu une forme de cannibalisme. Aussi, il y a des cas, par exemple, en Afrique du Sud, où des éleveurs, donc des gens qui ne pratiquent pas le cannibalisme, on a effectivement constaté que souvent les tribus qui avaient de la viande animale à proximité, les éleveurs, n'étaient pas cannibales. Et certains, une tribu dont j'ai oublié le nom en Afrique du Sud, est devenue cannibale précisément parce qu'elle était perçue comme telle à tort par les Blancs et qu'ils se sont dit, bon, vous voulez qu'on soit cannibale ? Eh bien, soyons-le.
Alors, il existe, et on le découvre dans le Ça m'intéresse, hein, toutes sortes de cannibalisme. Par exemple, le cannibalisme sexuel. On va vous présenter le cannibale de Rouen dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Il fascine l'humanité depuis des siècles. Qui sont les cannibales? Quelle forme prenait leur anthropophagie? Qui sont les derniers cannibales? C'est ce que l'on découvre avec le journaliste du magazine Ça m'intéresse, Sébastien Porte, dans un dossier publié en partenariat avec RTL. Et dans cette série d'articles, vous classez les cannibales par catégorie. Alors, il y a par exemple le cannibalisme psychopathe. Et pour l'illustrer, un certain Nicolas Cocaigne, que l'on a surnommé le cannibale de Rouen. Qui était-il?
Bon, alors avant de commencer à dire des horreurs, je tiens quand même à rassurer tout le monde, ces cas de cannibalisme sont rarissimes.
On peut aussi éloigner les enfants de la radio, parce qu'on va parler de choses un peu criminelles, on va dire.
Les sensibles peuvent s'éloigner, mais n'ayez crainte néanmoins. Les situations, donc, une fois qu'on est sorti, je dirais, de ce cannibalisme ritualisé, il reste encore des manifestations qu'on pourrait qualifier de criminelles. Ce sont des gens qui ont des comportements isolés et qui, pour des raisons qui peuvent être soit, je dirais, de l'ordre d'un désir de toute puissance, l'envie de dominer l'autre au point de l'ingérer, de le faire entrer en soi, et je dirais même de le faire entrer en soi complètement, parce que certains de ces criminels vont jusqu'à éliminer leurs victimes jusqu'à la dernière miette. L'un des cannibales célèbres dans les années 2000, que l'on surnommait le boucher de Rothenburg, Armin Mewes, avait consommé sa victime en pillant les os et en les mélangeant à de la farine pour en faire du pain.
Vous voulez rien laisser.
Il ne reste rien. Voilà. Et alors ce cannibale de Rouen?
Alors, celui de Rouen, lui, c'est un Français. Il s'appelle Nicolas Cocaigne. C'est une personnalité extrêmement fragile, imprévisible, qui avait déjà manifesté des désirs morbides de cannibalisme tout au long de sa vie. Orphelin, sans domicile fixe, délinquant, braqueur de banque, il se retrouve en prison. Et là, pour une histoire de chiottes bouchées, de toilettes bouchées, pardon, oui. Il se dispute avec son co-détenu, il la bat et il le mange, sous les yeux d'un troisième détenu.
Donc sans le faire cuire, il le mange, quoi.
Ah non, ce sont quand même des esthètes, ce sont des gens qui, des gastronomes, il l'a cuisiné avec des échalotes, avec du riz et de l'ail. Voilà, c'était la recette qu'il a racontée devant le tribunal.
Après, c'est de la folie, ça.
Alors, il était en prison, il y est resté, il est passé à l'isolement, et puis finalement, il a été condamné. Donc là, on est en 2007, et en 2011, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté. Alors, donc, vous pouvez sortir tranquille jusqu'en 2031.
Ah ben, bon. Nous voilà rassurés.
Ma peau ne supporte pas l'ail.
Parmi ces faits divers de cannibalisme, il y en a un qui s'est déroulé en plein Paris. On est au début de l'été 1981.
Paris, 1981, 10 rue Erlanger. À cette adresse, le cannibale japonais, comme on le surnommera bientôt, passe plus de 48 heures cloîtré avec sa victime. Une jeune néerlandaise de 25 ans, pour réaliser le fantasme de sa vie. Puis dans la soirée du 13 juin 1981, il sort de l'immeuble en tirant deux grandes valises derrière lui. Il arrête un taxi et demande au chauffeur de le conduire au bois de Boulogne.
Et les valises sont trop lourdes, il va en échapper une pendant sa balade, si j'ose dire, de nuit au bois de Boulogne. Et c'est ce qui va permettre de le trouver ensuite. Ce japonais s'appelle Issei Sagawa. Sébastien Porte, est-ce qu'il rentre dans la catégorie des cannibales sexuels ?
À ma connaissance, c'est-à-dire ma très modeste connaissance, je ne crois pas qu'il ait violé sa victime. En tout cas, il était amoureux d'elle et il a expliqué avoir été déçu parce qu'elle aurait repoussé ses avances et c'est pour ça qu'il l'aurait tué d'un coup de carabine et ensuite mangé sur plusieurs jours. En partie.
Avant de chercher donc à se débarrasser du corps.
Voilà, donc le crime a été enregistré parce qu'ils étaient tous les deux comme deux étudiants bien sages, des étudiants en littérature comparée dans une université parisienne. Ils étaient en train d'enregistrer des poèmes de romantiques allemands et on entend sur la cassette le bruit du tir de carabine et du corps qui tombe.
Mais il n'a jamais été condamné, cet homme. J'ai eu la surprise en regardant c'était un extrait d'un doc de Planète Justice. On le voit en liberté au Japon.
Donc, on a chez ces psychopathes, pour employer un terme qui n'est pas très précis, psychopathe, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une forme de dérèglement par rapport à une norme. On a chez des gens, chez ces gens-là, dans la majorité des cas, on a affaire à des gens qui sont parfaitement responsables de leurs actes, qui savent ce qu'ils font, ils savent faire la différence entre le bien et le mal, ils préméditent leurs actes. Donc, ce ne sont pas des schizophrènes, ce ne sont pas des psychotiques, des gens dont qu'on pourrait juger irresponsables dans la majorité des cas. En ce qui concerne Issei Sagawa, il a été jugé irresponsable par la justice française. Il a passé un peu de temps dans un hôpital psychiatrique. Il a ensuite été envoyé au Japon, où là, on a dû tenir compte de la décision de la justice française qui avait émis un non-lieu pour le libérer. Et donc, quelques années après, je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais il a retrouvé une vie, entre guillemets, normale. Et puis, il s'est rendu compte, finalement, il pouvait tirer un certain bénéfice de cette...
C'est devenu une star
au Japon ? Épouvantable notoriété. Oui, c'est devenu une star. Donc, il s'est mis à jouer dans des films érotiques. Il a joué des films où il rejouait la scène avec René Hartveld, sa victime. Il a écrit une bonne dizaine de livres. Il a fait de la publicité pour une chaîne de restaurants.
C'est agréable pour la famille ?
Attendez, on était en train de vous interrompre. Il a fait de la pub
Il a fait une pub pour une chaîne de resto où on mangeait de la viande.
Quelle horreur.
Bon. Et il est devenu consultant également pour la police.
Sébastien Porte, l'horreur n'a pas de limite. On trouve même dans votre magazine l'histoire d'une victime consentante d'un cannibale.
Alors, l'histoire, effectivement, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure où je disais que le corps de la victime avait été pulvérisé jusqu'à la dernière miette et mangé comme du pain. C'est celle de Armin Mewes, un Allemand, quelqu'un je dirais d'un haut niveau social, c'est un, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, c'est un ingénieur, et il passe du temps sur ce qu'on appelle le Darknet, sur Internet, à la recherche de proies consentantes, en leur expliquant « je vais vous manger ». Et de temps en temps, il arrive que certains se manifestent. Ces cas sont rarissimes aussi, il faut bien le souligner. On a affaire à des cas extrêmement singuliers.
Et donc un jour vient sonner à sa porte un homme.
Est venu sonner à sa porte un homme avec qui il a eu des relations sexuelles. Donc là, on est vraiment dans une espèce dans le cannibalisme qui est porté par comme certains psychanalystes l'ont expliqué des pulsions véritablement sexuelles. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut envoyer les enfants se coucher. Donc Armin Mewes, à la demande de sa victime, découpe le pénis de sa victime. Le cuisine, ils le mangent ensemble et ensuite l'exécution se termine en règle comme prévu par cette victime consentante.
Allez, on va continuer malgré tout, même si on commence à avoir un peu envie de vomir, de raconter l'histoire de ces cannibales. On va remonter un peu plus loin dans le siècle pour voir qu'il y avait toutes sortes de pratiques qu'on peut vraiment classer. Est-ce qu'il y avait par exemple du cannibalisme 100% alimentaire, c'est-à-dire que des tribus, des peuples n'avaient rien d'autre pour trouver des protéines.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Oh, monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir.
Curieuse, curieux.
Je suis la femme cannibale. La mangeuse d'hommes sous catalane. On dit que ma pomme est bonne à croquer. En fil facile à digérer.
Vous êtes chez vous sur RTL.
La fille du cannibale a des soirées un peu brutales. On dirait de la chasse à court. Elle n'a jamais connu l'amour.
Mickey 3D, les petites nacelles et Sacha Distel qui chantent.
Il s'est fait plaisir, notre réalisateur, Sébastien Dudouis.
C'est super, ça fait du bien parce qu'on sortait d'un récit vraiment glauque.
C'est vrai qu'on a vraiment envie de se trémousser sur des chansons comme ça.
Là, ça nous fait rire, quoi. Il faut bien expulser ça, la trouille que ça provoque.
Quel stress,
c'est tout ce maelstrom de réactions, d'émotions, de sentiments qui provoque le cannibalisme. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça nous fait peur, ça nous fascine, ça charme. ça nous dégoûte, tous les tabous, ça nous dégoûte. Et depuis que ça a été découvert dans le magazine Ça m'intéresse, Sébastien Porte, vous parlez notamment, et là on va remonter beaucoup plus loin dans le temps, d'une forme d'anthropophagie pratiquée au Brésil, dans une tribu, on va dire ça comme ça, les Tupis. Alors c'était quoi leur pratique? C'était quel type de cannibalisme?
Alors ce sont effectivement peut-être les premières traces de cannibalisme dont on a eu écho en Europe, notamment par un historien qui s'appelle Jean Delery, qui a observé ces toupies au Brésil, cette tribu qu'on appelle les toupies.
Donc c'est quoi, du cannibalisme guerrier?
Donc là, on a affaire à ce qu'on appelle de l'exo-cannibalisme, c'est-à-dire qu'on tue non pas... enfin, on mange non pas ses propres morts, mais les victimes des batailles.
Donc, on les tue pas pour les manger?
On mange ses ennemis. D'accord. Donc c'est une espèce de cannibalisme de trophée, c'est-à-dire quand on a capturé ou tué un ennemi, on le ramène au village, il y a des champs, s'il est encore vivant à ce moment-là, on le garde dans un garde-manger, comme une espèce de mets de choix que l'on se conserve pour des occasions particulières. On va même plus loin, c'est-à-dire qu'on peut le garder et lui donner en mariage une jeune fille du village dont on mangera les enfants. Donc il y a une espèce de perpétuation de la malédiction cannibalique sur ces pauvres victimes, qui néanmoins ne sont pas si pauvres que ça, parce que, alors toujours d'après des historiens qui aujourd'hui ne sont plus là pour nous contredire, d'après en l'occurrence Jean Delery, ces victimes, lorsqu'elles étaient sur le point d'être mangées, se réjouissaient, parce que c'était pour elles un honneur d'avoir été ainsi capturées par des ennemis si puissants, si valeureux, et on dit que certains riaient.
On a un peu de mal à le croire, votre alors,
moi aussi, j'ai également beaucoup de mal à croire cela. Donc, l'écriture de cet article m'a obligé à aller vraiment dans les sources ultimes de ces textes. Donc, il semblerait effectivement quand même qu'à cette époque-là, ce soit tellement ancré dans les pratiques qu'on ne peut pas aujourd'hui porter le même regard dessus.
Sébastien Porte, est-ce qu'il a existé plutôt un cannibalisme 100% alimentaire? C'est-à-dire, on a faim, on a des humains à portée de main, on les mange?
Alors ça, c'est un très grand débat. C'est un débat qui je dirais que les ethnologues se sont entre-dévorés sur ce sujet-là. Il y a eu une tendance à une époque, je dirais, au moment où les pays africains rentrent dans le concert des nations et où on a éprouvé peut-être un certain sentiment de culpabilité par rapport à l'époque coloniale, on a eu envie de les dédouaner, de dire non, ça n'a pas existé. Il y a eu une attitude de déni. Il y a eu une espèce de relativisme, voire de matérialisme, c'est-à-dire qu'on s'est dit s'ils font ça, c'est pour des raisons matérielles.
Ils n'ont pas le choix.
Il
n'y a pas de protéines dans leur région.
Quoi. Exactement.
Donc il y a des tribus africaines qui pratiquaient le cannibalisme alimentaire. Il se peut.
Ma position, elle est que non. Il y a toujours une dimension rituelle. Dans l'article, on parle de cannibalisme funéraire, rituel, guerrier, de survie. Souvent, ces différentes dimensions sont mêlées.
C'est marrant ce que vous dites, ma position, alors qu'on pourrait croire qu'il y a des faits, mais en fait, il y a pas mal de tabous autour du cannibalisme. Donc finalement, on ne connaît pas forcément les raisons, ou on les étouffe.
Je pense effectivement qu'il y a un jugement, en tout cas une espèce de précaution morale de la part de chez certains chercheurs. Soit de dire, s'ils ont mangé, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils avaient faim. Autour d'eux, il n'y avait pas assez de protéines. Et effectivement, on constate que les tribus où il y avait des éleveurs n'étaient pas cannibales. Par contre, étaient cannibales ceux qui mangeaient plutôt des tubercules comme le manioc, le taro, où il y a très peu de protéines à l'intérieur. Ceux qui mangeaient du riz, où il va y avoir plutôt 8% de protéines, ne deviennent pas cannibales. On constate aussi que les cannibales sont souvent dans les régions isolées, au cœur d'une forêt, ou alors sur des îles perdues au milieu de l'océan. Donc, on va leur donner une espèce de circonstance atténuante. On l'a fait en 77, par exemple, pour les Aztèques, qui sont les cannibales les plus épouvantables. C'était par milliers qu'ils mangeaient des gens à l'occasion de certaines fêtes.
Alors, c'était
des
quoi,
sacrifices.
C'était des sacrifices pour offrir des corps humains aux dieux, c'est ça?
Tout à fait. Donc, les horreurs dont les Aztèques ont été capables, nous les connaissons tous, elles s'accompagnaient pas toujours, mais souvent d'actes cannibaliques.
Mais qui avait, entre guillemets, hein, le privilège de manger ces hommes et ces femmes ou ces enfants qui avaient été sacrifiés chez les Aztèques?
Ce cannibalisme extrêmement ritualisé, effectivement, était d'abord à destination de l'aristocratie. Donc c'était les prêtres qui se partageaient avec les aristocrates, les nobles de la hiérarchie sociale aztèque, qui se partageaient les meilleurs morceaux, les bas morceaux allaient à la populace.
Les meilleurs morceaux, vous saviez ce que c'était ou vous n'avez pas forcément eu les...
Oui, le roi mangeait les cuisses et le prêtre mangeait le cœur. Bon. Là aussi, on n'a pas conservé, à ma connaissance, de menu précis de ces repas.
Avec l'idée, la folie de se rapprocher des dieux en mangeant les corps humains, c'est ça ?
Oui, de se préserver de leur colère, de s'assurer que tous les matins, le soleil se lèvera. Donc, il y avait des sacrifices suivis d'actes anthropophagiques, extrêmement ritualisés, sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Pour revenir à la question que vous me posiez, il y a eu un moment, donc dans les années 1970, où certains ethnologues, en l'occurrence Michael Harner, qui est un anthropologue américain, et Marvin Harris, qui est tenant de cette espèce de matérialisme culturel où il faut expliquer les faits sociaux par la nature, qui ont contesté, qui ont estimé que c'était par manque de protéines que les Aztèques étaient allés jusque-là. Ces thèses ont été ensuite remises en cause. Il y a évidemment une dimension symbolique et très forte qui prévaut, qui domine sur la nécessité alimentaire.
Bon, et quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, hein, est-ce que vous seriez prêt à manger le cadavre de votre voisin ? Les passagers du radeau de la Méduse se sont posé la question. Ils y ont même répondu il y a 2 siècles. Restez avec nous sur RTL.
Manger de la chair humaine, le simple fait de prononcer cette phrase fait frémir. Et c'est pour cela que le cannibalisme nous fascine depuis des siècles. On vous raconte son histoire avec Sébastien Porte, journaliste au magazine Ça m'intéresse, qui publie un dossier sur ce thème en partenariat avec RTL. Sébastien Porte, il y a quelques semaines dans La Curiosité, on racontait l'une des plus célèbres histoires de cannibalisme, celle du radeau de la Méduse.
C'est ce qui est tout à fait déroutant dans cette affaire, c'est que le troisième jour, les naufragés mangent de la chair humaine. Au bout de 3 jours, on meurt de soif, mais on meurt pas de faim. Il faut 3 semaines pour mourir de faim. Ils ont perdu toute notion de réalité, ils ont perdu tous leurs repères, ils sont devenus fous et ils sont passés de l'autre côté, en fait. Et ils ont perdu toute logique et toute conduite, en fait. Il n'y a plus aucune règle qui les mène.
1816, une frégate échouée au large de la Mauritanie. L'histoire a inspiré Géricault pour son célèbre tableau. Que s'est-il passé sur ce radeau ?
Alors, comme on vient de l'entendre, effectivement, on parle de cannibalisme. C'est quand même important de souligner effectivement qu'ils se sont mis à manger les victimes sur ce radeau-là au bout de quelques jours seulement. La période de naufrage, donc, n'a duré que 15 jours.
Ils auraient eu le temps de ne pas se manger.
Qui part de Rochefort avec à son bord le futur gouverneur du Sénégal. Donc on est en 1816, peu après Waterloo.
D'ailleurs, c'était l'administrateur du musée de la marine de Rochefort qu'on entendait, Philippe Mathieu.
Très bien. Et l'échouage est provoqué par le capitaine pour des raisons qui restent obscures parce qu'il faisait assez beau. Et pendant 15 jours, il se retrouve donc qu'une bonne centaine d'entre se soit noyé, il se retrouve sur ce radeau qu'a représenté Géricault. Et là, effectivement, au bout du troisième jour, il semblerait qu'il y ait eu des cas de cannibalisme. Bon, c'est pas du cannibalisme de survie, parce qu'ils auraient très bien pu tenir plus longtemps sans en passer par là.
C'est quoi ? C'est une espèce de folie. Si je me souviens bien ce que nous disait l'administrateur du musée de la marine, il y avait aussi une dimension un peu sociale dans l'histoire avec les gradés et les autres. C'est comme une folie collective qui s'est emparée de ces hommes.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il est difficile de faire des séparations entre le cannibalisme de survie, le cannibalisme guerrier, le cannibalisme rituel. Il y a toujours un peu de chaque forme, de chaque mobile à l'intérieur. Donc là, qu'il y ait une dimension sociale, ça rejoint certaines formes de cannibalisme politique, je dirais, où, en dehors de toute pratique culturelle, on s'est mis à manger l'autre parce que c'était un ennemi. On l'a vu en Chine, on l'a vu dans les années 90-2000 au Sierra Leone où il y a eu des exactions au Libéria, des exactions qui ne sont pas vraiment motivées par des pratiques ancestrales, mais par une espèce de dérèglement où on perd toute raison.
En Chine, c'est dans la Chine communiste des années 60, par exemple.
Tout à fait. Où là, à l'époque de la révolution culturelle, dans le sud du pays, dans des villages, les autorités locales ont encouragé des pratiques où il y a eu des banquets, où des gens ont été mangés en grande quantité. Et ça fait partie vraiment des zones noires de l'histoire contemporaine.
On parlait de l'histoire du radeau de la Méduse. Manger l'autre ou mourir, c'est un dilemme qui apparaît régulièrement dans notre histoire. Par exemple, on est en 1573 à Sancerre, dans le Berry. Que se passe-t-il lors du siège du château de la ville par l'armée royale ?
Donc les protestants, les huguenots, se retrouvent acculés à Sancerre et se réfugient à l'intérieur de la ville, où ils vont rester pendant un an à résister. Le siège va faire de nombreux morts, quelque chose comme un demi-millier de morts. Et au bout d'un moment, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent retard manqué. Mmh. Et donc là, on a effectivement des cas de cannibalisme qui ont été signalés, des femmes qui auraient mangé leurs enfants, après avoir consommé ce qui restait comme animaux, des chiens, des rats. Et donc l'historien dont je parlais tout à l'heure a fait un parallèle avec les tribus cannibales qu'il avait vues au Brésil, dont on parlait, les Tupis, en disant les huguenots sont la pire tribu cannibale que l'on connaisse en Europe. Et donc ça nous rappelle que bien que nous soyons débarrassés il y a bien longtemps de ces pratiques-là, il y a quand même eu des moments dans l'histoire comme ça où tout se dérègle. Mmh. Donc le siège de Sancerre.
Il y a une histoire géniale aussi. Moi, je me souviens d'un livre de Jean Tellet qui s'appelait Mangez-le si vous voulez, dans lequel il racontait ce qui s'était... Alors c'était un roman, mais très bien documenté. Il racontait ce qui s'était passé dans le village d'Hautefaille en Dordogne. Là aussi, c'est comme une folie collective.
Oui, et une folie collective qui à chaque fois est associée à un événement historique, une guerre.
On a quelle époque,
tout à l'heure là, avec Sancerre, on parlait des guerres de religion. Mmh. Au même moment, à peu près un an ou deux auparavant, massacre de la Saint-Barthélemy. Là aussi, il y a des cas de cannibalisme. Ouais. Révolution française, 1792, prise des Tuileries. Pareil, il paraît qu'on aurait mangé les foies de gardes suisses. En
Hautefaille,
1870...
C'est la guerre contre les Prussiens.
On est dans une situation de guerre aussi. Et là, dans un village où il ne se passait rien de grave au plan politique, les villageois se sont dit, ce type-là, il y avait un gars qui passait, qui n'était pas du village, ils se sont dit, c'est un Prussien, il faut qu'on se le boulotte.
Ils l'ont d'abord lynché.
Ils l'ont lynché, ça a donné lieu à des scènes collectives, où il a été cuisiné, et ensuite il y a eu procès, et effectivement le cas a été abondamment étudié.
Ce qui est intéressant dans vos histoires, c'est qu'il y a aussi il y a la folie collective, donc des cas de cannibalisme en groupe, et puis le cannibalisme individuel, comme c'est... Donc on n'est pas forcément en fait entraîné par la folie du groupe, ça peut être une folie personnelle, et moi c'est ce que je retiens notamment de votre dossier passionnant dans le magazine Ça m'intéresse.
Il y a aussi des psychopathes qui font ça tout seuls.
Voilà, exactement.
C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'un mot, c'est encore un tabou à Hautefaille, cette histoire ?
Il semblerait effectivement que quand on parle de ça aux habitants, ça ne les fait... ça les gêne un peu.
Ouais, oui. C'est une tâche qui reste sur l'histoire de
Il y a toujours une mémoire collective, en effet. Et c'est vraiment aussi en Afrique, par exemple, les générations récentes sont évidemment complètement sorties de ça, mais ça peut créer...
On n'en parle pas facilement.
Voilà, c'est encore
Merci beaucoup,
inavouables.
Sébastien Porte, Les Cannibales, dans le magazine Ça m'intéresse, est en partenariat avec RTL.
C'est la fin de notre émission. Je vous propose de la podcaster sur rtl.fr pour la faire découvrir à vos ennemis, cannibales ou pas, et vos amis.
Vous écoutez RTL.